va commencer. Oui, il est allumé, normalement.
Chers amis, bonsoir. Pas de président, je suis désolée. Pas de directrice générale, je suis désolée. Vous vous contenterez d'un membre du conseil d'administration pour vous présenter Patrick Devedjian. Alors, monsieur Devedjian.
Franck
Devedjian. Alors, Franck
Devedjian. On l'a fait à chaque fois.
Hein, on lui fait à chaque fois. Franck Devedjian, nous les amis, nous l'avons connu pour une formidable visite à Meudon. Alors, ceux qui. Il y en avait certainement parmi vous qui étaient à cette visite. Alors, à Meudon, il ne reste pas grand-chose. Mais grâce au verbe de Franck, et grâce à toutes ces reconstructions en trois dimensions qu'il a pu faire, nous avons pu nous rendre compte de ce qu'avait pu être le domaine de Meudon. Alors il ne s'est pas arrêté à Meudon, parce qu'il est un peu un fou furieux, là. Il a commencé à chercher partout, et ce soir il va vous parler de Saint-Cloud. Et je suis sûre que vous allez passer un très très bon moment avec lui. Alors, je sais qu'actuellement, vous êtes responsable à Meudon du...
Voilà, responsable pédagogique
du musée
d'art et d'histoire de Meudon, où je vous invite bien évidemment à venir.
À venir nombreux.
C'était l'ancienne maison d'Armande Béjart, donc la veuve de Molière. Et la maison n'a pas bougé depuis le XVIIe siècle. Elle se visite, bien sûr, c'est là où je travaille. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir, c'est... Au RER, vous sortez au RERC de Meudon-Valfleury, hein, juste à côté. Et vous, oui, je prends le micro. Et donc vous viendrez et je vous présenterai ce musée.
Voilà, je vous le livre et je suis sûre que vous allez passer un moment inoubliable.
merci beaucoup. Je remercie la Société des Amis de Versailles, hein, bien évidemment. Je prends le micro. Merci donc à la Société des Amis de Versailles de m'accueillir, hein, comme chaque année, hein, pratiquement maintenant, depuis 3-4 ans. Et effectivement, je vous avais présenté Meudon, peut-être certains étaient là. Ensuite, je vous avais présenté Chaville, aussi, vous vous rappelez. Hein, voilà. Et puis là, ce soir, je vous présente Saint-Cloud. Saint-Cloud, pourquoi ? Parce que me spécialisant donc dans l'étude... de l'architecture et de l'art des jardins au XVIIe et XVIIIe siècle en Île-de-France, bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de Saint-Cloud, comme vous l'imaginez. Et ce château situé pas très loin d'ici, bien sûr, qui a des liens avec Versailles extrêmement forts, comme vous l'imaginez. Voilà, donc je me suis intéressé à Saint-Cloud et je me suis dit, mais comme pour Meudon, comme pour Chaville, comme pour les autres châteaux, on parle beaucoup de Saint-Cloud, hein. On en parle tout le temps, on en parle de plus en plus. Hein. Vous savez qu'on a des projets divers et variés sur ce domaine. Mais finalement, est-ce qu'on se rend compte à quoi ressemble Saint-Cloud, en fait, à son apogée ? Alors, il y a toute une histoire très, très, très importante, considérable, hein, Saint-Cloud. Je me suis dit, on va faire toujours la même période, cette période vers 1700, vous voyez, fin du règne de Louis XIV, où l'art des jardins a atteint quand même une espèce d'apogée. Et donc, ce soir, je vous présente des... On va faire en fait comme Mary Poppins. Vous connaissez Mary Poppins, hein, bien sûr. Voilà. Je ne vais pas vous demander de prononcer le mot, hein, vous savez. Super, voilà, super, etc. On va essayer de faire pareil, c'est-à-dire... Vous avez l'image là du tableau d'Allégrin. Hein. Vous connaissez tous, bien sûr, cette peinture la plus belle qui représente le château de Saint-Cloud et les jardins. Et on va essayer de rentrer à l'intérieur et de voir différents points de vue des jardins. Ah, donc c'est une conférence qui ne va pas être une conférence pointilleuse au niveau des dates, etc. Non, ce soir, ce sera pas ça. Ce sera visuel, ce sera des schémas de restitution qui vont... Et puis, on va essayer de se poser des questions pour essayer d'appréhender au mieux l'état d'apogée. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si monsieur, hein, que vous avez, bien sûr, au centre, hein, vous savez tous, vous connaissez tous, bien sûr, frère de Louis XIV, dont Saint-Cloud était le domaine chéri, hein, c'est un peu comme si monsieur nous donnait la main et on va avec lui visiter, juste avant sa mort, hein, le domaine de Saint-Cloud à son apogée, à une date déterminée. Voilà. Alors, bien sûr, Saint-Cloud, monsieur, donc, au centre, j'ai mis les personnages les plus importants dans sa vie, hein. Enfin, il y en aurait d'autres, mais bien évidemment, Louis XIV, hein, vous le reconnaissez. Je vais te prendre un... Attendez. Voilà, ce sera toujours mieux. Il est... Voilà. Donc, allez, on va prendre le micro. Voilà. Donc là, vous avez monsieur, bien sûr, Louis XIV, vous l'avez tous reconnu, hein. Madame, donc Henriette d'Angleterre, hein, sa première épouse, bien sûr. Vous avez reconnu, hein, sa figure, la Palatine, bien évidemment, avec son fils. Et bien évidemment aussi, il ne faut pas oublier le chevalier de Lorraine, qui est le grand amour de la vie de monsieur. Voilà. Donc les personnages principaux qui, bien sûr, ont vécu à Saint-Cloud, connaissent très bien Saint-Cloud. Je ne vais pas du tout vous faire tout l'historique des fêtes, etc. Ce serait fastidieux, mais il y a Paul Missiot qui est dans la salle, qui a fait un travail exceptionnel de retranscription et de liste de toutes ces fêtes dans son livre sur l'orfèvrerie de monsieur. Je vous invite à acquérir, qui est un livre merveilleux. Et donc nous, on va plutôt, voilà, comme je vous l'ai dit, se balader. Alors, on va regarder le site aujourd'hui. Voilà le site de Saint-Cloud. Ah oui, la flèche, vous voyez la flèche, là, ou pas? Ah ben voilà, je vais faire avec la flèche, alors ce sera plus facile. Très bien. Hop là, attendez. Voilà. Donc, vue aérienne, hein, très bien, vous voyez tous l'emplacement, ici en vert, de l'ancien château. Très bien. Et puis, vous voyez que le site, les jardins, eh bien, écoutez, ils sont conservés, hein, vous êtes tous allés à Saint-Cloud, je présume, et on peut se dire qu'effectivement, on a quand même une bonne idée de l'aspect du site. Bon. On voit que toutes les allées sont là, etc. Très bien. Une autre partie un peu plus désaxée, hein, vous savez, avec l'île Monsieur, ici, hein, l'ancienne île Monsieur, et puis toute la partie des jardins bas. Et vous voyez que les allées, ici, mais datent du XVIIe siècle, elles n'ont pas changé. Et vous avez ici l'ancien Trianon, on en parlera, qui est conservé aujourd'hui. Je crois que c'est le pavillon international des poids et mesures. Hein. Et ensuite, et écoutez, ensuite, là il y avait le potager, et hop là, et puis ça part ensuite dans l'urbanisation. Voilà. Donc, un site, quand même, on peut dire très bien conservé. On a également les schémas topographiques qui sont absolument indispensables si on souhaite étudier un site. Parce qu'on se rend bien compte avec ces courbes, hein, ces teintes, hein, des couleurs un peu flashy, mais qui justement nous permettent de bien comprendre l'intérêt de Saint-Cloud. Pourquoi ? Puisque l'intérêt de Saint-Cloud, c'est que vous voyez très bien que sur cette colline, hein, ici en rose, vous avez la vue sur Paris, hein, bien sûr, puisqu'on a Boulogne ici, la Seine, et vous voyez très bien que dans le vallon ici, vous avez un vallon, hein, on le voit très nettement, et bien c'est là qu'on a aménagé le château, je vous en parlais, le château Renaissance, et puis le château ensuite classique. Mais il faut voir donc qu'on a toute cette colline qui donne sur Paris, mais on a également le chemin d'accès de Paris ici, hein, vous voyez la flèche, jusqu'à Versailles, hein, qui justement arrive à Chaville ici, hein, vous vous rappelez. Donc on a aussi le passage qui est très fondamental. Et les jardins vont suivre tout cet espace. Voilà. Donc on a une topographie qu'on n'a pas à Versailles. À Versailles, on n'a pas la vue sur Paris. On a la vue sur la plaine. Hein. On a la vue, en fait, presque sur une... On ne voit pas la nature à Versailles. On voit un lissage de la nature. Alors, je vous rappelle, vous pouvez aussi vous procurer le livre de Florence, hein, Austin-Montenay sur l'histoire de Saint-Cloud, hein, qui est magnifique. L'occupation de Saint-Cloud est ancienne, hein, puisqu'elle date de la Renaissance. Donc le premier château, qui sera pratiquement à l'emplacement de celui qu'on connaît, hein, il est ici, vous le voyez, et c'est donc effectivement un bâtiment Renaissance, qui, quand on regarde les estampes, avec attention, on se rend bien compte que le bâtiment évolue. Premier petit bâtiment ici, avec des terrasses, et vous voyez des jardins. Hein, moi j'ai parlé beaucoup des jardins, hein, surtout. Vous voyez déjà la Renaissance des jardins, très bien. Le bâtiment, on le retrouve là et là, il s'agrandit ensuite. Hein, vous voyez, début du 17e, on a des constructions qui s'augmentent. Très bien. Et voilà le fameux dessin de la Bibliothèque nationale qui nous montre le domaine des Gourdis, hein,
Là, on est un peu plus... C'est Sylvestre, donc on est voilà, 17e, hein, première moitié du 17e siècle. Et vous voyez donc une première construction. C'est très important de voir l'antériorité de l'occupation. 1658, hein, on va parler de monsieur, acquisition de Saint-Cloud, et puis on va construire donc un nouveau château, hein, les premières années, et on va développer les jardins. Alors, voilà, on rase donc l'ancien bâtiment, hein, Renaissance, et on construit, monsieur fait construire, il arrive, il a besoin d'un premier château. Donc voilà le château qu'il construit. Château un petit peu... Attendez, hop, ça bouge. Château qui est un petit peu une masse, en fait. Hein, vous voyez, ça fait, on dirait presque un blocos. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ou un mastaba égyptien, c'est un peu l'un ou l'autre. Bon. On avait l'ancienne fontaine ici de la Reine, hein, qui est une fontaine... Qui doit être le. Qui existe depuis toujours ici à Saint-Cloud. Bon, premier bâtiment, très bien. Je vous montre encore. On a le plan le plus ancien que l'on connaisse. Voilà. Le plan le plus ancien que l'on connaisse de Saint-Cloud est un plan de 1669. Et on voit très bien ce premier bâtiment. Vous le voyez ici. D'accord. Vous voyez là. Voilà. Chaque fois, ça. Attends, je vais le faire. Voilà. Donc, voilà, vous voyez ici très bien le plan du bâtiment, la fontaine de la Reine ici, 1 degré, et puis vous voyez très bien le jardin qui est aménagé. On a une glacière, on a une allée ici, mais c'est quelque chose de très modeste. Vous avez le jardin en bas, et une cour du château avec toutes les remises, les écuries, une galerie également, mais c'est vraiment un bric-à-brac de construction. Il n'y a rien de classique dans tout cela, hein, comme vous le voyez. Hervard, hein, va habiter à Saint-Cloud. Et voilà l'état du domaine, alors, on va dire, au milieu de... Juste à l'acquisition de monsieur, en fait. Hein. Et vous voyez très bien les jardins bas, ici, avec des terrasses, hein, qui sont déjà aménagées. Donc une antériorité, comme je vous disais. On dézoome un petit peu le plan que je vous ai montré. Et vous retrouvez donc le château, ici. Et les jardins, alors là on est en 69, donc monsieur a entrepris des premiers grands travaux, et vous voyez donc bien évidemment la cascade, la grande cascade qui existe toujours aujourd'hui, hein, bien sûr, qui a été réalisée par monsieur donc, durant les premières années, et vous voyez ensuite le jardin bas, mais qui s'interrompt, hein, on accède au château par regarder la petite ruelle qui arrive au pont, et on a d'ailleurs la maison de monsieur Fouquet, hein, qui est juste à côté ici. Et on a un petit moulin. Et donc, vous voyez, cette rue-là, c'est la vieille ruelle d'accès au château. Et tout ça va être complètement, bien sûr, bouleversé par monsieur, qui va transformer tout ça en un château classique. Et voilà le plan, donc, à la fin du XVIIe siècle. Donc, on était ici, hein, je vous avais montré ce petit chemin qui était là, le petit chemin ici, qui montait au château. Donc, voilà le plan qui est absolument merveilleux, extrêmement fidèle, et qui nous montre le développement atteint par monsieur à la fin de sa vie. Allez, quand on superpose, vous voyez les deux, regardez, petit schéma, l'ancien château avec les jardins, vous voyez, et on voit très bien que les jardins s'arrêtaient ici. Et donc, on a ici l'emprise supposée, hein, des jardins du XVIe siècle, hein, qui se prolongeait, hein, bien sûr, de ce côté, au bord de la Seine, mais vous voyez qu'ils s'arrêtaient tout de suite ici. Il y avait une petite grotte là, et il s'arrêtait net. Et vous voyez ensuite l'emprise, avec aujourd'hui, hein, vous connaissez bien sûr, hein, l'ensemble de la grande perspective Hoft, on va en reparler, et l'emprise, quand on la compare après avec monsieur, avec ce qu'il réalise, regardez, on voit bien que monsieur augmente considérablement la taille de son domaine. C'est vraiment flagrant, en 50 ans, on a multiplié presque par 10 la superficie. Alors, on va essayer de regarder maintenant et de regarder les estampes et d'avancer. Bon. On a plein de représentations de Saint-Cloud. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont fausses? Est-ce qu'il faut les prendre au premier degré ou non? Bon. Alors, la fontaine de Rocaille et les goulettes de Saint-Cloud. Alors, cette estampe, elle est extrêmement fidèle, hein, puisque vous reconnaissez, vous allez sur le site et vous connaissez, hein, cette allée, hein, bien sûr. Hein, voilà, rien de spécifique. Très bien. Et on voit très bien, ici... Vous les voyez ici, des goulettes qui commencent. Très bien. Pas de souci. Alors, on continue. Voilà, on peut mettre une photo dans l'autre sens. Ensuite, au XVIe siècle, donc, il y avait déjà le grand G. C'est le détail que vous voyez ici. Et ce G, alors, mesure, je ne sais plus exactement la hauteur, mais enfin, il y a une mesure considérable. C'est, il fait au moins 30 mètres, hein, il me semble. Vous avez plein de petites estampes. La grotte de Saint-Cloud, alors celle-ci, est-ce qu'on peut la situer ou pas? Eh bien oui, c'est très facile, il suffit de reprendre les plans. Et par exemple, cette grotte, alors une grotte, hein, une grotte à Saint-Cloud, il n'y a aucun problème. Voilà, quand on reprend les petites choses, on modélise et on retrouve la petite grotte ici, dans les plans, on la voit très bien, qui était donc au bout de l'allée qui est collée, vous voyez, au grand G de Saint-Cloud. Donc on peut repositionner les estampes. Alors voilà le grand G aujourd'hui, hein, si vous y allez. Donc bon, ça a bien changé. On a des dessins, hein, du grand G. On a des dessins merveilleux qui nous permettraient de le reconstruire, hein, pourquoi pas. Vous voyez donc, aujourd'hui détruit, hein, ici, là, au niveau de ce talus vert, hein, vous voyez là. Eh bien à l'époque, on avait donc ces cascades. Voilà, exactement. On a le dessin qui nous explique tout. Et vous voyez donc les cascades qui ont été, alors qui dataient du XVIe et qui ont été a priori totalement refaites pour monsieur. Et voilà un petit peu cette partie du jardin. Alors le château Renaissance, il était, avec le château de monsieur, il était juste ici, hein, vous voyez, enfin à peu près ici, là, sur la hauteur d'un angle ici. Et donc voilà à peu près l'état du jardin à l'arrivée de monsieur, vous voyez. Donc on a une petite grotte ici, le canal, le granger et l'allée basse, vous voyez, dans le fond. Et forcément, au bout de l'allée, il faut avoir quelque chose à voir, hein, au bout d'une allée. C'est pour ça qu'on a le petit papillon qui est ici, qui termine visuellement l'axe. Voilà. Très bien. Et quand on fait un petit schéma et qu'on avance et après avec les constructions de monsieur, ben on voit qu'il embellit les choses, bien sûr. Hein, et donc, il suffit de faire un clic. Et là, on voit tout de suite la différence des constructions. On voit bien évidemment la grande cascade, hein, qui est construite de l'opôtre, hein, bien sûr, et puis des terrassements au-dessus, des allées qui vont se multiplier. Vous voyez, ce sont des phases. On n'a pas du tout un domaine qui va être pratiquement vierge. Là, non, on va vraiment avoir des bâtiments préexistants, des allées préexistantes, et on va s'amuser à embellir tout ça. On va faire un travail de parure. Alors, cette petite grotte, là, vous voyez, c'est celle-ci. Là, juste là. Alors, on a effectivement des représentations. On voit la façade ici, du côté du château, sur la hauteur, et l'estampe, donc, le dessin de mon ami Christian Bénilan, qui a représenté donc la grotte de l'autre côté, et vous voyez qu'il y avait toute une petite cascade, effectivement, avec un bassin, et tout ça est documenté d'après les estampes. Hein. Quand on travaille sur les bâtiments, sur les formes, on a des documents, mais moi ce que j'aime bien, c'est revoir exactement les bonnes mesures. Vous voyez, et là, typiquement, c'est un petit détail, mais ça nous permet d'être plus juste. Là, voilà la représentation, et voilà l'élévation telle qu'on peut la proposer. Hein. Et vous voyez que le pavillon ici, en fait, quand on suit les plans au sol, on est beaucoup plus sur quelque chose de carré. Alors, vous voyez, bon, c'est des petits détails, mais qui permettent déjà de mieux appréhender les choses. Alors, la grande cascade, bien sûr, vous la connaissez tous, hein, vous êtes tous allés à Saint-Cloud voir la grande cascade, très bien. C'est le chef-d'œuvre de Saint-Cloud. On la voit très très bien ici, regardez. Elle est là, et le château, vous reconnaissez le premier château que je vous ai montré. Hein, vous avez vu, il n'y a pas de construction à l'extérieur, très bien. Alors, cette cascade, quand vous la voyez aujourd'hui, en fait, elle a été beaucoup remaniée avec le temps. Et il y a un détail qui doit vous frapper normalement, il me semble, quand vous regardez la peinture de Versailles. Enfin, le tableau qui concerne Versailles, vous voyez très bien qu'il y a des couleurs de briques, enfin, ou des couleurs de... pas de briques, mais de teinture rose, hein, qui est peut-être des moellons. Quand vous allez aujourd'hui, en fait, tout a été refait au XIXe siècle. Et donc, aujourd'hui, on a simplement un aspect de pierre. Hein, donc, la cascade qu'on voit aujourd'hui n'est pas celle... Elle est au niveau des volumes et de l'aménagement, c'est identique, mais au niveau de la vision qu'on pouvait en avoir... On est loin de l'état du temps de monsieur. Mais enfin, on a la chance, du coup, d'avoir les tableaux qui pallient à cela. Très bien. Voilà, sur le tableau, d'Allégrin, donc la cascade que vous voyez ici, et son premier état avec des petits bassins de part et d'autre, vous connaissez bien sûr toute cette image, hein, qui se termine dans un petit bassin ici, avec une gerbe, et une pelouse centrale. Très bien. Tout un ensemble de statues, hein, je ne vais pas parler de tout ça, même ce Pasquier ici qui pourrait nous parler en détail de toutes les statues de Saint-Cloud, il est un spécialiste. Alors voilà la fameuse cascade, regardez, vous la connaissez, je ne vais pas vous insister hein, sur ça, mais c'est quelque chose quand même de très monumental. Cascade peut-être un petit peu lourde, un peu comme toutes les réalisations architecturales de Le Pôtre, hein. Je suis un peu dur hein, avec Le Pôtre, mais bon, il n'a pas le talent d'un Gérard de Mansart quand même. Hein. Bon, alors, vu de l'autre côté, hein, vous avez vu, donc on s'est placé là entre la cascade et le canal, hein, puisque bien sûr, l'ancienne pelouse sera aménagée en canal. Parce qu'on a tout, à la fin du XVIIe siècle, on a toujours, si vous regardez tous les plans, tous les châteaux, vous allez voir qu'on a, à la toute fin du XVIIe, une simplification générale de l'ensemble des jardins français. Et c'est vrai pour tous les jardins. On simplifie les choses. Autant vers les années 1680, on est encore dans les motifs très précis, les buis. Et puis après, à la fin du règne, vers 1700-1715, on simplifie tout, on fait des grandes pièces d'eau, des grandes pelouses. Il y a un changement là, à la fin du XVIIe, qui d'ailleurs qui serait fort intéressant à étudier en détail. Alors voilà, l'État aujourd'hui, hein, bien sûr, avec la ville hein, en face, et puis l'État à l'époque, hein, État beaucoup plus champêtre. Et vous voyez, bien sûr, ce qui était très beau, c'est que vous aviez donc la Seine hein, en face, la plaine de Boulogne, hein, et puis la colline d'Issy et de Meudon, bien sûr. Et puis vous voyez, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que la vision qu'on peut avoir depuis le point de vue que je vous propose nous montre que le bassin ici, écoutez, paraît presque de même, vous voyez, de même largeur que la Seine. Alors on a toujours ces jeux comme à Versailles, vous savez, le Grand Canal, etc., des jeux de déformation. Alors voilà, un petit détail intéressant. On a dans les jardins bas cet hôtel. Alors c'était une ancienne maison du village, bien sûr, vous l'avez ici. Et là, vous voyez les anciennes écuries, vous voyez, dont je vous ai parlé au début. Alors, toute cette partie, ce sont donc les jardins bas. Et on retrouve cette construction, le petit hôtel ici avec une galerie, on le retrouve sur le tableau d'Allégrin, vous voyez, mais dans l'autre sens. Hein. Vous voyez bien la galerie ici, et qui se retrouve également ici. Alors, on a les informations principales, effectivement, des escaliers, on le voit très très bien ici, le parterre, le bassin. Donc, vous voyez, les tableaux nous donnent des informations. Et on essaye ensuite de les exploiter. Alors, on peut confronter aussi les documents avec aussi donc, ce dessin Israël Sylvestre, hein, Fekit, hein, bien sûr. Vous retrouvez la galerie, hein, et puis le petit emmarchement, et puis l'escalier avec une grotte, une sorte de petite fontaine, peut-être au centre. Donc, on multiplie ces documents et on essaye de proposer une petite restitution. Bon, c'est schématique, mais ça permet de... Il y a un intérêt, c'est de replacer les choses à leur échelle. Vous voyez ? Et on voit, donc cet hôtel va vraiment devenir une annexe immédiate du château. Hein. Vous savez, dans tous les grands domaines, on a toujours le petit château. Hein. À Sceaux, par exemple, vous connaissez très bien Sceaux, on a, dans un petit coin, c'est toujours pareil, quand les domaines s'agrandissent au fur et à mesure, les maisons du village qui étaient autour du château hop, sont rachetées, sont englobées, et on les transforme en petit château. Alors, petit château, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est un petit bâtiment, il y a bien sûr le grand château, mais on a toujours à côté un petit château qui est un petit, on l'utilise voilà pour loger soit ses amis, soit aller faire voilà. On a jamais au XVIIe une grosse construction où il y aura tout dedans. Non, on aime bien la dispersion des choses. Et l'exemple type c'est Marly, hein, bien sûr, avec le pavillon royal et les 12 petits pavillons qui sont dispersés. Bon, très bien. Alors regardez, on se place ici au niveau de l'escalier, hein, voilà, là, au-dessus. Et on va voir, on trace des traits. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit, bien sûr, que je vous ai mis en rouge, regardez. Bien sûr, vous savez que le nôtre hein, est venu à travailler à Saint-Cloud. Hein. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver des petits jeux visuels. Et on retrouve, regardez, quand on se place au haut de l'escalier, on a le premier petit parterre à côté de la grotte, là, enfin, la galerie, hein, pardon, un premier bassin. Et effectivement, l'augmentation progressive de l'échelle fait que les deux bassins paraissent de même taille. Et ce qui est quand même plus surprenant, c'est regarder ces deux grands parterres qui sont référencés sur les plans. Hein, vous voyez quand même qu'ils sont beaucoup plus grands quand même que les premiers, hein, bien sûr. Mais magie de la vision et des jeux d'optique, quand on se place, on arrivait comme ça, on descendait du château, en fait, on devait avoir, je crois, il y avait une collation en bas, on descend l'escalier et on arrive forcément, comme on est en haut d'escalier, on est obligé de s'arrêter. Hein, vous imaginez bien, puisqu'ensuite on va prendre les rampes de part et d'autre. Donc, et voilà, et on a là pour le coup une très très belle perspective, axée sur les jardins bas, et vous voyez cet équilibre effectivement entre les deux bassins, et l'équilibre se réalise également au niveau des parterres. Hein. C'est très flagrant, regardez, on a vraiment une impression parfaite d'équilibre, mais pour ça il fallait déformer en fait l'échelle. Et puis bien sûr, toujours la scène dans le fond. Alors, un détail sur l'institution, il ne faut pas oublier que les arbres sous monsieur sont laissés. Vraiment, on laisse pousser les arbres. Donc il y a une différence. Moi, j'ai fait des petits schémas, mais il faut vraiment imaginer que Saint-Cloud, c'est une spécificité. On laisse pousser les arbres. Et vraiment, à la fin du XVIIe siècle, vraiment, monsieur, les arbres, il faut imaginer une... C'est pas du tout l'image comme on a, vous voyez, comme le Versailles d'aujourd'hui, où on a tout coupé. Non, non, les arbres sont immenses. D'ailleurs, on le voit dans les dessins anciens. Voilà, donc là, on s'avance, effectivement, on voit ce petit point de vue. Là, on a la vue depuis la petite maison, la maison particulière qui a été annexée, le petit château, en fait, de Saint-Cloud. Et on avait ce jeu, c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que le site est passionnant du fait de la présence de la scène, qui nous donne, en fait, à voir un véritable spectacle au quotidien, avec ces allées et venues de bateaux, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même quelque chose de... C'est là où c'est l'autoroute, hein, c'est l'autoroute de l'époque. Mais une autoroute beaucoup plus agréable, ça conviendrait. Alors très bien, alors on va continuer notre promenade. Hein. Je vous ai promis qu'on allait rentrer dans le tableau et qu'on allait se balader. C'est ce qu'on vient de faire, regardez, puisqu'on était ici. Hein, vous rappelez, on était... Alors là, c'est pas comme je vous l'ai dit, vous avez remarqué. C'est pas comme je vous l'ai refait, vous avez remarqué, hein, puisqu'il y avait un bassin. Voilà. Eh bien, parce que le tableau, on est vers 1680, et le parterre que je vous ai réalisé, c'est une modification tardive. On a des plans qui le montrent très très bien, tout concorde, et on a une vraie simplification et une modification. Il ne faut jamais oublier, moi je vous ai dit, je vous fais un état vers 1700, hein, la mort de monsieur, il ne faut jamais oublier que tous ces jardins sont modifiés en permanence. Et quand, justement, pour réaliser un peu les petites vues, là, je me suis plongé dans tout ça, et c'est vrai qu'on n'arrête pas de voir un plan, un autre, et on se dit, mais c'est incroyable le nombre de modifications, la richesse qu'on a déployée pour sans cesse varier les plaisirs. Bon. Alors, vous voyez surtout ici, pourquoi je vous parle de cette vue, parce que dans les jardins bas, il y a un axe principal. Hein, et l'axe principal, en fait, c'est celui-ci. Vous voyez, jardin bas, on ne peut pas faire grand-chose dans un jardin bas. Quand on a de la topographie réalisée, on a de la pente. Là, on peut s'amuser dès qu'on a de la pente. Hein. Vous avez vu à Meudon, on peut s'amuser. On fait. Et là, on a une cascade, on peut s'amuser. Mais quand c'est plat, c'est un petit peu triste. Donc, on va tricher. Et le nôtre, il triche aussi. Alors, là, vous avez donc. On a parlé de tout ça. Et puis, ici, vous voyez les berceaux. Hein, vous les voyez ici. Les berceaux en tout petit ici. Alors, vous voyez, on va parler de ça. Voilà. Aujourd'hui, ces berceaux seraient situés ici. Vous voyez, le parterre des berceaux, qui aujourd'hui, vous savez, il y a le monument... comment s'appelle-t-il, ce monument du... C'est le palais, je ne sais plus, là, le palais du 19e siècle. Voilà. Donc, là, vraiment, pour le coup, on ne sait plus ce qui s'était passé. Et en fait, on regarde, on voit les plans, regardez la finesse, hein, et on a la représentation... Là, des sculptures, de la végétation. On voit tout, on revoit, alors on voit bien les berceaux, on voit tous les massifs fleuris, la richesse, le foisonnement de tout ça. Bon, très bien. Bien, donc ensuite on reprend les plans, et hop, on retrouve encore une petite estampe. Hein, vous voyez, il faut les collectionner pour savoir où exactement elles tombent. Et on revoit Fontaine de la Gerbe de Saint-Cloud, très bien, ici. On voit le petit parterre, et au fond, un treillage. Et vous retrouvez les berceaux qu'on avait vus. Donc cette estampe, elle est fidèle. Elle représente un lieu qui a existé. Et donc c'est ici, vous voyez. cette configuration, qui termine tout au bout de l'allée basse, vous voyez, cette allée basse qui suit la Seine, hein, qui est l'axe principal, et qui est terminée ici par un treillage. Alors, treillage, j'ai pas de dessin du treillage, hein, terminer l'allée. Vous savez, je vous en ai parlé au début, hein, pour l'autre, l'allée haute, il y avait une petite grotte aussi Renaissance. Là, on avait un treillage. Alors, je vous ai pas, c'est pas celui-ci, mais je vous ai pris cette image parce que vous avez ici une composition monumentale, alors faite de cascades, hein, très riche, mais où vous voyez au fond, vous voyez, derrière le groupe sculpté, une allée qui se poursuit encore. Vous voyez, avec cet effet de perspective. Eh bien, les treillages, le pavillon de treillage qu'on avait au fond de l'allée, je vous le remontre ici, vous voyez, ici, voilà, mais écoutez, devait reproduire ce système d'allée fuyante comme ça. Et donc le jardin, on avait l'impression qu'il ne se terminait pas. Alors voilà la restitution, du coup, de cette partie des jardins. Restitution à l'échelle, où vous voyez très bien les personnages, et donc voilà les berceaux de part et d'autre, et puis vous avez le pavillon dans le fond, hein, qui terminait la composition. Alors cet espace, alors je vous ai dit, quand on n'a pas de topographie, quand on n'a rien, on utilise autre chose. Ces berceaux là c'est un petit peu comme l'Encelade, quoi, le site de l'Encelade à Versailles. Il y a, quand on va sur le site, c'est à peu près plat. Donc on a été obligé de pallier à la topographie par la richesse de l'artifice, hein, et donc des treillages. Et c'est un peu la même chose ici. Voilà. Et alors, à noter que cet espace ici, qui est très très grand où il n'y a rien du tout, c'est un espace qui est utilisé pour les spectacles en plein air de monsieur. Hein, ils font installer un théâtre, là, tout au fond, au bout de la perspective. Alors, on continue. Alors, oui, de l'autre côté de l'allée, je surveille l'heure, voilà, vous avez également, de l'autre côté, vous voyez ici encore un point de vue, hein, sur un parterre, sur tout un système de bosquets, etc. Et donc, bah, on n'a pas les plans, hein, mais le jour où on trouvera le plan, ça sera formidable. Et donc, pareil, on avait des vues, là, alors c'est un schéma, mais on avait aussi, vous voyez, des axes. Donc, c'est-à-dire, toute la... Je vous montre ça pour vous expliquer que, voilà, toute la partie des jardins bas, en fait, elle est scandée par différents points de vue qui donnent sur la Seine. C'est-à-dire, vous avez le point de vue de la cascade, vous vous rappelez ici, hein, le point de vue du granger, le point de vue de l'hôtel particulier, le petit château, vous voyez ici, le point de vue du parterre. Donc on a vraiment ces axes latéraux qui organisent le jardin. Voilà. Très bien, on continue. On va s'amuser de plus en plus, bien sûr, imaginez. Alors, on va essayer de se placer au premier étage du château, hein, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, bien sûr. Donc, on se place au premier étage, dans l'appartement de madame, et voilà la vue, alors qu'on avait, là, on est au rez-de-chaussée, mais aujourd'hui, bien sûr, vous connaissez tous ce point de vue, et on peut réfléchir à se dire à quoi ressemblait le même point de vue au XVIIe, quand madame écrit ses fameuses lettres, hein, à sa grande-tante. Eh bien, voilà ce que l'on obtenait. On avait une... Alors là, on est beaucoup plus haut. Hein. On est 7 mètres plus haut, puisqu'on est au premier étage du château. Alors, on a... Ce qui frappe au premier chef, c'est qu'on a, bien évidemment, un grand axe, une grande perspective. Hein. Un tapis vert absolument rectiligne, des allées de part et d'autre. Hein. Et vous voyez qu'effectivement, au XVIIIe siècle, hein, parce qu'il y aura beaucoup de modifications des jardins et d'embellissements au XVIIIe siècle, bien sûr, j'en parle pas aujourd'hui, mais vous voyez très bien qu'on va adoucir. Parce qu'on trouvait que cette... Vous voyez, la rigidité de la pente, là, ici, c'est quelque chose quand même d'assez abrupt, hein, d'assez fort. Mais on va l'adoucir au XVIIIe, hein, et vous voyez qu'on va effectivement créer des petites pentes, là, de part et d'autre. Donc voilà. Donc ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas ce que monsieur voyait, bien évidemment, et ce que Louis XIV voyait à l'époque. Donc voilà la vue à l'époque. Et puis on voit derrière, vous avez la Seine avec la boucle, et puis belle vue, enfin le Don, etc. Voilà. Donc, depuis l'appartement de madame, on a une vision extrêmement, extrêmement sobre, en fait. Alors, le château. On va parler un petit peu du château, bien sûr. On va agrandir, donc je vous ai mis les dates. Vous vous rappelez que Le premier château de monsieur, il est là. C'est le château que je vous ai montré. Hein. Eh bien, ensuite, il va donc faire agrandir. Là, vraiment, il va mettre les moyens. Vous savez que Louis XIV hein, donne beaucoup d'argent à monsieur. C'est un petit peu son hocher. Hein. Vous voyez qu'avec cet argent, monsieur finance quelque chose de considérable. Donc, il agrandit, il crée le corps central et ce bâtiment en retour qui, bien évidemment, est symétrique du premier château. Mais le premier château, il est là, hein, bien sûr. D'accord ? Et malheureusement... malheureusement, je dirais pour le château lui-même, l'agrandissement a suivi. Regardez un détail architectural. Hein, a suivi. Donc, vous voyez la hauteur initiale du premier château qui était à une autre échelle. Hein, vous comprenez bien. Là, on est dans une autre échelle. Eh bien, la hauteur ici a été prolongée. Hein, vous voyez très bien ici entre ce pavillon et celui-ci. Vous voyez très bien que on a gardé la même hauteur du premier château. Or le premier château, ben, il était très équilibré parce qu'il avait été construit pour. Mais là, comme on a une contrainte du rez-de-chaussée, eh bien, après, on veut dégager les appartements pour avoir des plafonds, vous savez, des grands plafonds voûtés. Le bel étage, le premier étage, et le bel étage, l'étage noble, hein, bien sûr, où il y a tous les appartements d'apparat. Et mais malheureusement, ça fonctionne, bon, bien sûr, mais on voit qu'il y a quelque chose qui... On voit que le château a été agrandi, en fait, ça se voit. On voit, enfin, c'est mon avis, hein, après chacun... Mais je ne parle pas de beau ou pas beau, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Je parle de, techniquement, je montre qu'on a effectivement un rez-de-chaussée extrêmement faible par rapport à la hauteur du premier étage, du fait de la contrainte du premier bâtiment. Et est-ce que monsieur n'aurait pas mieux fait de faire tout raser pour reconstruire quelque chose d'un peu plus équilibré, parce que le premier château n'était pas si grand que ça, mais en fait, on voit très bien du 7e qu'on est toujours dans l'économie, on garde toujours les bâtiments. Et alors, le château est peut-être, c'est mon avis, hein, est peut-être un petit peu disproportionné au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, je me suis un petit peu avancé sur le niveau de l'architecture, je me suis permis hein, de m'excuser. Voilà, alors la distribution intérieure sous monsieur, voilà. Bien sûr, vous le connaissez sûrement, hein, Montenay a fait toutes les descriptions, de celui-ci aussi. Donc on a bien sûr les grands appartements, hein, vous connaissez le Salon de Mars, la Galerie d'Apollon, bien sûr, Salon de Diane, etc. L'orangerie sur la hauteur, donc toute cette grande enfilade, ce sont les appartements d'apparat. En jaune, les appartements du roi. En rouge, donc vous avez les grandes pièces de réception de l'appartement de monsieur, ici, la chambre d'apparat de monsieur, la chambre de parade, hein, le cabinet de monsieur, et puis... Du côté de la future grande perspective haute, tous les cabinets de monsieur et puis son petit appartement hein, où il s'amusait avec ses amis. Et de l'autre côté, vous avez au contraire en bleu l'appartement, bien sûr, de notre cher ami, hein, la Palatine, enfin on dit la Palatine, mais c'est madame, hein, bien sûr. Et vous avez ici, avec la vue, hein, je vous ai montré la vue depuis le cabinet, hein, vous rappelez, je vous ai montré la vue du cabinet ici. Le grand salon qui date du premier château, enfin, par Nocré, et puis ici un petit appartement. Voilà
la distribution, tout ça est connu, hein, il n'y a pas de difficulté. Les intérieurs, vous connaissez tous ce dessin, hein, bien sûr, qui nous montre, qui est extrêmement fidèle, et qui nous montre, bon, outre la voûte de Mignard, je ne vais pas en parler ici, bien sûr, mais qui nous montre le décor de la galerie du temps de monsieur. Et vous voyez très bien que ce n'est pas du tout ce qu'on voit avec les photographies du Second Empire, hein, de la galerie, telle qu'elle a été prise en photo juste avant l'incendie. Vous voyez au contraire un décor champêtre, hein, il y a plein d'arbres, des petits bustes de marbre qui scandent le décor, et au-dessus donc, des différentes baies, vous le voyez très bien ici, un vase de fleurs, hein, avec différents petits motifs, donc des dessus, on va dire que c'est pas des dessus de porte, mais c'est des dessus de fenêtres, hein, ornés de motifs floraux et de vases de fleurs. Donc j'ai fait un petit schéma, mais c'est vraiment très schématique, donc vous me pardonnez, mais c'est simplement pour se rendre compte de l'ambiance de cette galerie sous monsieur. Voilà, alors, je ne vous ai pas fait la voûte, hein, mais je vous ai fait quelque chose voilà, très rapide, mais qui permet de se rendre compte d'une chose, c'est que cette galerie, cette grande galerie, eh bien, quand on rentrait à l'intérieur, on n'était pas du tout dans une pièce intérieure. On était en extérieur. Hein, et ça, on adore, vous savez, travestir la réalité. Et donc, on a vraiment un sentiment, quand on rentrait dans la galerie, d'avoir voilà, tout un décor champêtre,
Et c'est, notez-le, parce qu'après, vous allez voir que l'orangerie, c'est la même chose. Une orangerie qui a un enfilade de l'autre côté. Voilà. Alors là, l'orangerie, je vous en parle. On continue. Et vous allez voir. Donc le château, ça c'est la façade, vous savez, du coup, vous le connaissez toutes, hein, du côté du jardin. Jardin haut, pardon. Et vous voyez cette orangerie qui est quand même monumentale. Orangerie monumentale qui a été détruite, hein, bien sûr. On ne peut plus la voir. Et il y avait, en fait, elle, tout simplement, ce n'était pas qu'une orangerie. Il faut bien imaginer que, en fait, c'était une galerie. Elle avait été vraiment, le pavement était en marbre. Enfin, il y avait tout un mobilier extrêmement riche. Voilà, et des objets d'art, etc. Donc, c'était vraiment une sorte de galerie annexe à la galerie que vous venez de voir, mais beaucoup plus grande. L'ensemble avait été peint effectivement en trompe-l'œil. Hein, voilà, vous avez tout ça dans le livre de Madame Montenay-Austin. Voilà. Et donc là, vous avez le plan de la galerie. Alors regardez, cette galerie, elle mesure, quand on prend les dimensions, 9 mètres de large, 9 mètres 25 sur 70 de long. Donc ce sont les mesures en fait de la galerie des Classes à Versailles, hein, bien sûr. Parce que monsieur se. Pas tout à fait, non ? Oui. Ah oui, oui. À 3 mètres près, oui, bon. Bon, on est, je dis, ah, presque. Hein. Vous savez que monsieur Louis XIV se bat chaque fois pour qui a la plus grande galerie. Hein. C'est un petit peu ça, hein, vous savez. Et puis la galerie de Saint-Cloud est achevée avant celle de Versailles. Alors, vous savez que le roi dit, ben, bravo mon frère, hein, j'espère que ma galerie elle sera aussi belle que la vôtre. Et alors, vous avez là, cette grande orangerie. Et puis, juste, pour, je vous le note hein, comme ça, au bout, il y avait une salle de comédie. Hein. Et c'est là où il y avait tous les spectacles de Saint-Cloud en intérieur. Donc l'hiver, on pouvait faire des petits spectacles. C'est une pièce qui est quand même très importante. Mais à ma connaissance, on n'a pas des informations, mais on n'a pas de dessin sur cet espace. Bon. Alors vous avez surtout donc, le projet hein, en haut du décor de l'orangerie. Alors encore une fois, j'ai fait un petit schéma. Hein. C'est très schématique, c'est des couleurs un peu criardes, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous donner encore une impression de quand on était dans cette pièce, qu'est-ce qu'on pouvait ressentir visuellement, vous voyez. Alors, ça donnait un. Alors, oui, pour, on a les motifs, bien sûr, je parle de Versailles, hein, je ne vous apprends rien, vous connaissez tout ça par cœur. Hein, voilà. C'est dans le salon de Diane, hein, c'est ça, hein, voilà. Si je ne me trompe pas. Alors, voilà, ça donnait quelque chose comme ça. Oui, bon, vous ne m'en voulez pas pour les couleurs. Hein. Mais, encore une fois, alors, j'ai mis le même motif de répétition, mais il y avait beaucoup plus d'architecture dans le fond, mais quand même, on retrouve quand même cette idée. Hein, si je vous remonte le dessin, vous voyez très très bien les masses végétales hein, ici, et puis un ciel, hein, un grand ciel dans le fond. Hein. Donc on avait quand même, si on reprend le dessin, et c'est cette partie du dessin qui est plus juste que l'autre partie, parce que l'élévation est en totalité, mais c'est cette partie-là qui est plus fidèle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a un portique extérieur, avec, dans le fond, un paysage, alors des motifs architecturaux que vous rajoutez dans votre tête, hein, bien sûr, mais vous voyez, encore une fois, on est à l'intérieur, tout en étant à l'extérieur. Il n'y a pas de frontière hein, entre les deux. Et alors, vous ajoutez le pavement de marbre, vous ajoutez tout le décor, hein, le tralala, et puis vous vous rendez compte que cette pièce, cette orangerie, ben, ce n'est pas du tout une annexe, hein, c'est vraiment une partie intégrante du château. Très bien. Alors, j'avance un petit peu sur la perspective de Lenôtre. Voilà, ça, c'était pour le château. Bon. Alors, André Lenôtre, on a célébré, hein, vous rappelez, on a fait beaucoup d'événements autour de la célébration de sa naissance. Bon, on prend le parterre de l'orangerie dans le tableau d'Allegri. Vous voyez très bien l'orangerie ici, le château. Hein. La cour, n'oubliez jamais que, on ne la voit plus aujourd'hui, mais au XVIIe, on a une cour devant l'appartement de monsieur qui est ici. On a une grande cour. Et monsieur, pour aller dans les jardins, passe par le petit pont, qui rappelle le petit pont de Meudon, d'ailleurs. On aime bien les petits ponts. Et de son cabinet, il passe par le pont de ici, et il arrive sur le parterre de l'orangerie. Très foisonnant, bien sûr. Bon, très bien, petit canal. Bon. Et regardez sur le tableau d'Allegri, quand on regarde, comment se termine la perspective. Comment elle se termine, la perspective, là ? On a, face à nous, on a quoi ? Alors on a deux fontaines, mais on a quoi en fait visuellement ? On a une sorte de mur en fait face à nous, hein, une sorte de mur végétal. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On a une masse qui termine cette partie du jardin. Bon, donc ça donne ça en fait. Hein, on arrive au bout. Vous savez, il y a les jardins bas aussi, donc ils étaient bien développés. Donc à un moment donné, cette perspective, elle se termine très bien. On n'a pas encore, le note n'est pas encore intervenu pour dégager cet espace. Hein, donc on termine le jardin, quoi. Hein, bon, voilà. Et le note, c'est là où il est génial, c'est qu'il arrive, voilà, alors il vient voir monsieur adore. Et puis, voilà, il dit, monsieur le note, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? J'ai cette partie du jardin, ça ne me convient pas trop, là, vous voyez, c'est un petit peu bouché, j'aime pas trop ça. Bon, le problème, c'est que la topographie, elle est très difficile, là, sur la hauteur, il n'y a rien de spécifique. Et là, le note est vraiment formidable, parce que, de la faiblesse du terrain, il en fait une absolue force, hein. Bien sûr, comme toujours. Comme à Meudon, comme à Chaville, hein, je vous avais montré Chaville, vous vous rappelez très bien, le note s'était surpassé également. Alors, voilà l'état du jardin, et puis si on suit les grains, et ensuite le nôtre, lui, eh bien voilà ce qu'il réalise. Donc là, on était, l'image précédente, regardez, on était juste ici, hein, on s'était arrêté là. D'accord ? On avait le bassin, vous vous rappelez. Le nôtre arrive, et il chamboule tout, hein, comme d'habitude. Et donc il va créer ici un escalier, une allée, on va en reparler, et il termine par une composition qui existe aujourd'hui, bien sûr, vous les connaissez, les 24G, là. Le grand bassin, etc., et puis après ça monte. Bon, très bien. Donc, vous avez vu, d'un faible espace, on arrive, on monte, et à la fin, on a au contraire une ouverture considérable. Hein. Donc, on agrandit l'espace plus on avance. Alors, on va reparler de cette perspective, parce qu'elle est très intéressante. Voilà, aujourd'hui, hein, avec un monsieur qui nous donne l'échelle, vous avez donc la vision du parterre de l'orangerie. L'orangerie était située, bien sûr, ici. Ok, pas de souci. Ensuite, on avance, on voit le bassin et on a l'escalier. D'accord ? On monte l'escalier, on n'a plus rien. Aujourd'hui, hein, il n'y a plus rien. Ça paraît quand même bizarre. Hein, on monte un grand escalier et aujourd'hui, on a une allée sans rien. Bon, ça, au 17e, c'est pas possible. Ça. Bon. Et puis ensuite, alors vous voyez que l'allée, effectivement, entre l'allée, on a l'impression qu'elle se termine par un tapis vert. Hein ? Et on ne voit absolument pas, bien sûr, jeu d'optique facile à réaliser tactiquement, on ne voit pas, en fait, le grand, les 24G tout au bout. Voilà, très bien, le grand bassin. Bon, on va reprendre cette perspective, mais au XVIIe siècle. Et finalement, on ne s'était pas posé la question de savoir à quoi elle ressemblait au XVIIe. Alors j'ai regardé, je me suis dit, là, on a le château, vous vous rappelez, donc l'appartement de monsieur, sa chambre, et le petit appartement de monsieur. Donc c'est de son petit appartement, ses cabinets, pardon, et son petit appartement. Donc c'est là qu'il avait la vue sur la perspective. Très bien. Premier élément, la cour, ici. Je vous ai dit, il y a une cour. Donc monsieur ne peut pas passer de son appartement au jardin. Il est obligé d'emprunter son cabinet pour passer sur le pont et arriver dans le... Ou alors il passe par l'orangerie, vous voyez, de l'autre côté. Bon, très bien. Par terre, alors, ces plans-là, on les retrouve. Quand on cherche, on retrouve à l'époque, on retrouve ce plan-là, exactement donc symétrique. Pourquoi ? Parce que la largeur de cette petite pelouse est égale à celle-ci. Hein, vous voyez, donc la symétrie est bien respectée, sauf que là, le rond du bassin gratte un petit peu, hein, c'est le parterre, mais la symétrie, si vous tracez ici un axe, on est exactement symétrique. D'accord ? Mais pourquoi ce dessin ? Parce que ici, vous avez la grande porte de l'orangerie, la porte centrale qui permet d'accéder. Donc on était obligé de tracer ici de l'allée. Donc en symétrie, on fait ça. Bon, peu importe. Ça, c'est simplement juste pour le tracé du parterre. Mais vous voyez, on peut comprendre même jusqu'au tracé du parterre. Très bien. Parterre de l'orangerie, escalier à côté, vous voyez très bien. Alors voilà la vision. Donc là, on est dans le petit appartement de monsieur. Au rez-de-chaussée. Donc il donne vraiment sur le rez-de-chaussée, hein, du côté du jardin. Voilà, c'est un schéma, hein, toujours. Alors, voilà l'orangerie, vous voyez, l'escalier, et on voit le tapis vert dans le fond. Très bien. Et les grandes allées d'arbres. Bon, on voit rien de spécifique. Là, si on monte au premier étage, on voit ça. Mais ce n'était pas ça qu'on voyait du bel étage. Hein. Bon, mais je vous l'ai mis quand même. Alors, on revient, voilà. Donc, on va au bout du parterre de l'orangerie. Vous vous rappelez, je vous ai montré les photos en l'état. Alors voilà l'époque. Et là, c'est très intéressant, parce que on revoit le bassin, hein, qui existe toujours, enfin qui a été modifié. Mais... Et surtout, vous voyez l'escalier dans le fond. Alors bien sûr, il n'y a plus les pelouses, hein, qui avaient été aménagées certainement au Second Empire, ou même au XVIIIe siècle. Mais vous voyez là le point clé de la perspective. C'est-à-dire, c'est le lieu du renversement. C'est exactement comme à Chaville. C'est-à-dire, le nôtre, vous vous rappelez que c'était ici que c'était bouché. vous vous rappelez, tout à l'heure. Eh bien, il fait un escalier monumental qui, visuellement, va boucher la suite de la perspective. Donc, on garde toujours l'effet de surprise, vous voyez. Donc, il crée une sorte de mur, mais qui permet d'accéder à une autre partie du jardin. Très bien. Et vous voyez bien qu'on ne voit pas la suite. OK, on avance. Alors voilà, on avance, on contourne le bassin, et vous voyez que tout s'efface, hein, on ne voit absolument plus rien. Et il a été en fait obligé de faire cet escalier monumental pour, il y avait la topographie du terrain qui montait, mais surtout pour, là il efface toute la composition derrière. Bon, très bien, on va monter l'escalier. Et là, où il n'y avait plus rien, vous vous rappelez, hein, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Alors on voit déjà sous le régent que l'allée est modifiée et qui ressemble à celle qu'on voit aujourd'hui. Mais moi, je propose cet état qui a dû durer du temps de monsieur. Donc, c'est un état qui n'existe plus déjà sous le régent. Mais je propose cet état puisqu'on a une vignette. Vous savez, c'est marrant les documents anciens parce qu'il y a des dessins qui paraissent très précis et qui contiennent des erreurs énormes. Et il y a des dessins, des petites, une petite vignette, là, je crois que c'est dans le livre de Madame Austin. Elle a mis une petite vignette minuscule. Et c'est la seule où j'ai vu effectivement cette configuration. Et là, on voit au centre un tapis vert. Alors, c'est formidable, pourquoi ? Parce que c'est exactement les mêmes règles, c'est les règles typiques de Le Nôtre, c'est la signature de Le Nôtre, c'est-à-dire, je vous remontre le plan, voilà. C'est-à-dire, comme à Chaville, comme à Meudon, comme de partout. C'est-à-dire, le renversement du jardin, il a lieu, je vous explique deux secondes ça, parce que c'est important. Le renversement, il est là, c'est-à-dire, d'une perspective où vous avez au centre un vide, d'accord, une allée, sur les côtés, la végétation, et on voit simplement un seul jet d'eau. D'accord ? Le Nôtre, on arrive à l'escalier, et là, il va absolument renverser. Il renverse absolument tout. C'est-à-dire, on va le voir, voilà. Là où il y avait l'allée, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la pelouse centrale, alors qu'elle était vide tout à l'heure. Là où il y avait, donc, sur les côtés, les deux petits parterres, on voit des petits aménagements, de petites ifs, etc. Et puis surtout, là où on n'avait qu'un seul jet d'eau, hein, depuis le parterre de l'orangerie, il suffit de monter donc, d'un degré, là, et on voit au contraire la profusion de l'eau qui, du coup, se déplace sur les côtés. Et donc, on a l'escalier et le nœud du jardin haut. Il renverse absolument, comme un sablier, on renverse absolument tout. Et pourquoi c'est passionnant ? Parce qu'on retrouve ça à Chaville, on retrouve ça à Meudon, on retrouve ça de partout. Hein. C'est la signature de Le Nôtre. Et surtout, c'est passionnant pourquoi ? Parce que le but de tout ça, c'est quoi ? C'est quand monsieur il invite quelqu'un chez lui, hein, comme il nous le fait ce soir, il est très gentil de nous inviter, il veut éblouir hein, le visiteur. Et pour éblouir quelqu'un dans des jardins, il faut éviter absolument la monotonie, hein, bien évidemment. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'on voit très bien qu'en faisant simplement 10 mètres, en montant l'escalier, on a la vision qui s'est totalement renversée. Et donc, on n'a pas de ressenti, d'ennui, etc. Tout est en mouvement, tout change. C'est exactement, il faut vraiment que vous le compreniez comme ça, comme un changement à vue de décor de théâtre. C'est véritablement, on adore ça à l'époque, hein, vous savez, hein, on adore là, les trois secondes où on a le changement à vue, hop, c'est les trois secondes du spectacle qui plaisent le plus hein, au public, hein, puisqu'on voit tout se mouvoir. Et bien là, c'est la même chose quand on monte l'escalier. Voilà, j'insiste sur ça parce que c'est absolument passionnant. Alors on avance dans cette perspective sur les côtés, bien sûr, et on voit les petits bassins, etc. D'ailleurs, on peut. Oui, je ne sais pas si. Alors, on avance, et là, à la fin, donc les petits bassins, et puis on monte, on arrive au bout, hein, vous savez, ici, là, sur l'allée latérale, hein, donc, et on arrive, bien sûr, vous les connaissez, cette pièce, c'est aujourd'hui, voilà, j'ai pris une photo, hein, j'ai pas besoin de faire. Et donc, vous voyez, la grande pièce d'eau qui termine, hein, les 24G, hein, qui termine la composition, et où, du coup, on était dans un espace restreint, et là, au contraire, le Nôtre nous offre à la fin une. Et alors, c'est aussi très. Baroque dans le sens de, voilà, de baroque, hein, vous comprenez, où près du château c'est très sobre, et puis plus on avance, plus la vision devient complètement fantastique, hein, presque, je dirais. Hein, voyez alors, Voilà. Bon, ça, vous connaissez, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, comme l'espace, d'un coup, à la fin, s'ouvre. Mais il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Le nôtre, il ne pouvait pas faire autre chose que d'ouvrir comme ça l'espace. Parce qu'il y a une colline, il n'y a pas grand-chose. Bon, il fait un coup de maître. Très bien. Et on a, bien sûr, les estampes de Rigaud. On voit qu'on est au bout de la perspective. OK. Maintenant, on continue. Donc là, c'était pour la grande perspective. C'était quand même quelque chose d'important. Les jardins hauts. On va se balader. On continue à se balader avec monsieur. Il me donne la main. Et puis, alors, ce dessin merveilleux, c'est de Portail, je crois. Le dessin, c'est ça. D'André Portail, voilà, c'est ça. Jacques-André Portail, exactement. Et donc, il nous donne beaucoup de dessins de vue. J'en ai trouvé un de belle vue. Là, on a exactement une vue merveilleuse sur le château, le salon de Diane, ici, la cour, l'entrée. Et puis, vous voyez, effectivement, le jardin bas, on en a parlé tout à l'heure, avec les arbres, vous voyez, qui là sont. Alors qu'on était certainement replantés au XVIIIe siècle, je pense. Bon, cette vue, ce dessin est magnifique, mais finalement, il ne nous donne pas beaucoup d'informations par rapport à une photographie, puisqu'on a une photo qui est presque au même point de vue. Et alors, vous voyez simplement les modifications, regardez, c'est ici, là, tout cet espace-là, regardez comme ça va changer après, bien sûr. Voilà. Donc, on a après la route qui va traverser tout ça. Bon, très bien. Jardin haut. On y va. Oui, voilà, c'est ça. Alors, regardez. Quand on sort, en fait, non, c'est celle-ci. Voilà. Là, on sort des grands appartements. Il y avait le salon de Diane à côté, la galerie d'Apollon, le salon de Diane. Très bien. Monsieur nous invite dans les jardins. On sort ici. D'accord ? On a un petit escalier, très bien. Et vous voyez qu'on arrive ici. Il y a un petit grillage. Et voilà. Et là, on a tout un bosquet qui est le bosquet, d'Apollon et des Muses, etc. Alors, regardez. Voilà. On sort des grands appartements. Et voilà ce qu'on en voit. On voit. Alors, le duc de Bourgogne nous donne toujours l'échelle, c'est fort pratique, comme ça nous permet de comprendre les choses. Alors là, c'est passionnant, parce que cet espace-là, il est extrêmement encaissé, puisque sur la hauteur, ici, il y a une colline, et là, en contrebas, il y a des bâtiments. Donc en fait, on n'avait pas le choix, on était obligé d'aménager cet espace avec une sorte de triangle. Vous allez voir le plan après. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit bassin minuscule, vous voyez, il est tout petit, celui-ci, et ensuite, un parterre. Le parterre, pareil, de quelle forme ? En sortant du château. Il paraît carré. On est bien d'accord. Il paraît parfaitement carré. On dirait un petit carré. On est bien d'accord ? Oui. Voilà. Eh bien, c'est la magie de l'optique. Regardez, en fait, le plan de ce bosquet. Voilà. Vous voyez ? Et on était, donc, bien sûr, on est arrivé... Alors, on a le plan, parce que dans les archives, on les retrouve. Et voilà, ici, on était là. Et vous voyez, on avait l'impression que la longueur de ce parterre était simplement de cette taille. Vous êtes bien d'accord. Donc là, on a vraiment un jeu d'optique absolument formidable. Et donc, plus on va avancer loin du parterre, plus celui-ci va s'agrandir. Et donc, le parterre, à la fin, il va être deux fois plus large que devant. Bon, rien de spécial à tout ça. Mais du coup, ça permet de créer tout un jeu de visuel, vous allez comprendre, puisque, alors contrairement à tout ce qu'on disait aussi, il n'y a pas la perspective là, peinte par Boulogne n'était pas du tout mise ici ou dans une allée latérale, non, elle était ailleurs. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas mise, mais elle était située ailleurs. Bon, alors, voilà, on avance, donc je vous ai dit, on avance sur l'un des côtés, d'accord, et on arrive au bassin. Vous avez bien vu le plan tout à l'heure. Très bien. Et là, quand on se place ensuite... Je vous remets la vue au début. Voilà. Regardez bien ça. Et maintenant, on va se placer. Vous allez comparer avec le point de vue. Là c'est une vue... C'est quasiment un jeu. C'est ridicule. Vous imaginez la taille du parterre pour le frère unique du roi. Ça paraît très modeste. Mais regardez dans l'autre sens. Quand le visiteur ensuite va se placer, regardez, ici, bien sûr, forcément, il va aller voir le jet d'eau, forcément, il va tourner, forcément, et il va s'arrêter là, en regardant le bassin. Et regardez ce qu'il va voir de l'autre côté, il va y avoir une théâtralisation, et comparé au premier schéma, vous allez voir, c'est absolument fascinant. Alors voilà, il avance, et là, ensuite, il se place devant l'avance, et voilà ce qu'il voit. Et donc, vous voyez, en faisant simplement 50 mètres, il y a alors c'est absolument passionnant cette vue. Pourquoi ? Parce que on voit premièrement que cet espace là qui est dédié à Apollon. C'est un espace qui est loupé au départ. Hein. Il a encaissé, je vous ai dit. Donc on ne pouvait pas faire de belles choses. Mais par l'optique, on voit que le château, regardez, il n'est pas du tout axé, bien sûr. Hein, on voit le bâtiment de biais, hein, forcément, puisqu'on est sur le côté. Mais du coup, ça, c'est pas très joli hein, de voir ça. Mais du coup, pour équilibrer l'ensemble, les points de fuite, du coup, là, avec l'allée d'arbres, vont s'accentuer, hein, bien sûr, dans l'autre sens. C'est comme une perspective de théâtre, un décor de théâtre. Hein, vous savez, les lignes sont fuyantes. Et donc, on va avoir une mise en scène, par un simple jeu d'allée, de ce château, de ce volume bizarre. On va avoir une véritable mise en scène, très théâtrale, et qui devait... Vous voyez, la confrontation entre la première image et celle-ci, on a l'impression que là, au contraire, on a fait 100 mètres. Enfin, on a l'impression qu'on a marché 200 mètres, alors tout à l'heure, le parterre, il mesurait simplement 5 mètres de côté. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, ensuite, dans les jardins hauts, on continue, on se balade, bien sûr. Alors, il y avait le labyrinthe, hein, vous savez, labyrinthe à Versailles, bien sûr. Donc, labyrinthe à Saint-Cloud. Monsieur, il fait tout comme le roi, ou alors, peut-être le roi fait tout comme monsieur. C'est toujours l'un ou l'autre. Hein, bon. Et le labyrinthe de Saint-Cloud est intéressant dans le sens où il y a véritablement, quand on y rentre, regardez ici, on a vraiment l'effet labyrinthique. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on a moins, on l'a à Versailles bien sûr, mais on l'a moins parce que là, regardez, quand on arrive ici, on a vraiment cette allée hein, qui converge, donc on a vraiment le point d'entrée quand on arrive dans le labyrinthe, on ne sait absolument vraiment pas où aller puisqu'on a cette allée qui sont face à nous. Hein, avec après des petits bosquets, etc. Mais à ma connaissance, et puis quand on regarde le plan, je ne sais pas, alors si vous savez, vous me dites, mais je présume que a priori, il n'y avait peut-être pas de jets d'eau. Je ne sais pas, après, si vous savez. Mais je ne sais pas s'il y avait des jets d'eau ou pas également dans le labyrinthe de monsieur. C'est une question qu'il faudrait se poser. Peut-être, parce qu'il n'y a pas de raison que lui n'ait pas ce que son frère a à Versailles. Oui. Alors voilà, bon, schématiquement, ça fait ça. En fait, quand on est à l'échelle, voilà, il y avait ce jeu d'aller, là, on ne sait plus où on va. Bon. Ok. Alors, les jardins hauts, on continue. Je vois que le temps passe, il faut que j'accélère. Alors, regardez, la vue haute ici, de nos jours, hein, bien sûr, vous connaissez, c'est formidable. Hein. On est depuis le point de vue haut, là, vous savez, là, c'est la terrasse. Hein, voilà, le belvédère. Voilà, le belvédère. Voilà, la lanterne, ben oui, bien sûr, il y aura effectivement la lanterne. Et donc, voilà la vue à l'époque, et voilà la vue. À l'époque plutôt, voilà, où on voit donc on voit différentes choses. On voit l'île de Monsieur qui vraiment terminait et qui équilibrait un peu la masse des jardins. Vous voyez, on voit bien sûr Notre-Dame, les Invalides et Montmartre. Hein. Et puis ici le château d'ici hein, et là Meudon. Bon, là vous savez on était juste à côté des berceaux. Hein, c'est pour vous resituer. Hein, vous savez les berceaux, vous rappelez en bas hein, les berceaux. Voilà. Donc on était là au berceau. Ensuite, on passe par une sorte de filtre, une masse végétale, donc on ne voit plus rien, on voit simplement des allées, des grands arbres. On a tout oublié, les jardins du luxe, de la cascade, la grande cascade, etc. On ne sait plus où on est. Et c'est une sorte de filtre pour ensuite être encore plus ébloui. Donc, contraste, toujours la règle du contraste. On arrive ensuite, on peut passer sur l'île de Monsieur si on le souhaite, bien sûr, avec le petit pont. Et ensuite, on arrive à d'autres berceaux, ici, pour terminer au parterre, bien sûr, le parterre de Vénus, avec le Trianon hein, de Saint-Cloud. Alors, on y va, voilà le Trianon de Saint-Cloud, voilà, bien sûr, qui existe toujours. Alors, on ne peut pas y aller. Moi, je ne suis pas encore pu y aller, mais le bâtiment est là, les terrassements aussi. Voilà, donc on a des photographies, vous voyez. Alors, une construction qui, quand je vous ai mis Gobert 71, là, c'est pour le pavillon, là. Hein. Mais on peut se dire aussi que toute cette construction-là... Après ça, il faudra voir. Mais moi, il me semble qu'on peut se dire que cette construction, est-ce qu'elle pourrait quand même pas être antérieure? Est-ce qu'elle ne daterait pas de la Renaissance? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qu'on a réemployé? Parce qu'on a l'impression qu'on a quand même joué sur un bâtiment là qui est préexistant. Bon. Alors voilà, on a le plan, bien sûr. On prend le plan... Et on avait un grand salon, on avait des porcelaines. Alors, le décor intérieur était rempli de porcelaine. Et vous avez... Donc, on voit bien qu'on n'a qu'un seul des deux pavillons, bien sûr, par contre. Hein. Et donc, cette vue-là est très juste, puisqu'elle nous montre le pavillon avec le grand salon, les appartements, et puis les terrassements. Vous voyez la terrasse qu'on a vu, qu'on vient de voir, avec les arches, un autre terrassement, et puis, donc, une sorte vraiment de belvédère. D'accord ? Et donc, voilà les vues, bien sûr, très connues, qui nous montrent, donc, le pavillon avec, ici, la terrasse, et puis le parterre de Vénus. Vous voyez ici, avec la fontaine de Vénus au centre. Et vous voyez la vue sur Paris. Très bien, pas de difficulté. Tout fonctionne, on a le plan, bien sûr, à Stockholm, hein, du parterre, il n'y a pas de souci. Trianon Saint-Cloud, monsieur le maître, etc. On a aussi, voilà, il suffit de prendre des estampes, et on regarde à la Bibliothèque nationale, et puis on voit des petits détails fort intéressants. Ça, c'est la... je crois que c'est John Lowe, c'est une estampe de John Lowe, il me semble, si je ne me trompe pas, et on voit derrière, regardez, la sculpture hein, de Vénus hein, sous son parapluie. Hein. Là, vous voyez très bien le parapluie ici, entouré des nymphes et des satyres. Enfin, vous avez tout là, les triages avec le petit parterre de Vénus qui est conforme au plan. Bon, pas de souci. Là, vous aviez un motif, effectivement, de triage qu'on peut reproduire. Du coup. Voilà le détail sur cette sculpture de Vénus. Alors voilà. Donc, avant d'arriver au parterre, on avait donc ce grand espace, hein, vous voyez, avec ces grands triages ici. Vous voyez. Donc un espace et puis deux grandes pelouses donc avec un bassin, un espace très sobre. Toujours pareil. Pourquoi sobre? Parce que avant d'arriver aux bijoux du parterre de Vénus, il faut que le visiteur soit un petit peu reposé, qu'il voit quelque chose de simple pour être d'autant plus ébloui. Si on met que du luxe, du luxe, du luxe, du luxe, à un moment donné, on s'ennuie du luxe. Hein. Donc il faut faire des moments de pause visuelle et pour être beaucoup plus ébloui. Très bien. Alors voilà, la restitution avec le parterre de Vénus. Donc on peut repositionner tout l'ensemble à l'échelle, bien sûr, et vous voyez ce parterre de broderie avec un plan très atypique, hein, très étiré, mais qui est destiné en fait à être vu depuis le Trianon. Tout a été conçu pour aussi être vu depuis le Trianon, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a cet étirement qui est aussi lié à la topographie du terrain, hein, je ne dis pas. Mais voilà, donc la restitution avec l'île de Monsieur qui est quand même d'une taille absolument considérable. Très bien. Alors en détail, bon voilà. Et vous voyez surtout, vous voyez, la restitution 3D permet de mieux de se rendre compte de l'échelle. Hein, parce que quand on met un petit personnage à l'échelle, là, tout de suite on se dit, mais c'est pas possible, on n'a pas construit ça. Et bien oui, c'était exactement tel que vous le voyez. Bon. Alors voilà, on peut aussi refaire le point de vue très fidèle, du moins je l'espère, depuis le Trianon. Et donc vous voyez effectivement que cet étirement du jardin, hein, vous le voyez très bien, hein, le parterre, il est très étiré, mais c'est parce qu'il faut, comme il est vu de loin, il faut qu'il puisse tenir la route hein, sur la distance, je dirais, vous voyez. Et on a donc voilà la composition, on a presque Notre-Dame qui est presque axée, qui devait peut-être l'être d'ailleurs, sur le bassin. Et puis, les petits détails, c'est que ce plan-là, qui est la terrasse haute, on dispose de ce plan, donc je l'ai inséré, et j'ai été très surpris que depuis le point de vue, c'est un tout petit détail, mais qui vous montre qu'on joue vraiment sur les masses. Regardez, là, on a bien les deux allées, ici, de part et d'autre, hein, en symétrie, et on a l'impression que la pelouse, ici, respecte, vous voyez, visuellement, la masse, ici, pour ne pas l'abîmer, entre guillemets. C'est presque un respect, vous savez, c'est comme les parterres qui respectent l'architecture et donc qui font des courbes en fonction. On a presque l'impression que là, il y a eu ce jeu, un tout petit détail de pelouse, mais qui, du coup, permet de respecter ce qu'on voit à 200 mètres plus loin. Alors après, on finissait par le parterre de Lormois, c'est une sorte de grande plantation hein, pour se servir d'avoir du bois, etc. Bon, très bien. Et on arrive au niveau du pont de la route de Paris-Versailles, hein, bien sûr. Et là, il y avait aussi également une autre entrée. Voilà, pas de souci. Alors, je vais essayer de finir parce que... Voilà. Oui, parfait. Allez, je vais essayer de finir vite. On continue la visite. Monsieur nous amène toujours. Il y a toujours des surprises, vous imaginez bien. C'est très joli, tout ce qu'on a vu. Mais monsieur... Il veut quand même toujours épater la galerie. Bon, donc qu'est-ce qui... Eh bien, en fait, ça continue la balade. Sauf qu'aujourd'hui, elle s'arrête hein, quand vous allez à Saint-Cloud, bien sûr. Aujourd'hui, c'est fini. Vous allez vers l'ancien Trianon. Alors, vous aviez le potager. Donc, potager qui est réalisé, qui n'est vraiment pas du tout un potager pour le coup, fait pour éblouir. Pas du tout. Au contraire, on voit que ça a été vraiment fait là où on a pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'on était contraints. On était contraints par la route qui va à Versailles, bien sûr, ici, avec la verrerie, et de l'autre côté, par la colline. Hein, vous voyez l'allée de M. de Nevers. Et donc là, on a la grosse colline. Donc on n'a pas d'espace pour le potager. Donc on fait un potager un petit peu comme on veut. Donc c'est pas du tout... On n'a pas, là, pour le coup, monsieur n'a pas le potager d'apparat que son frère a à Versailles. Hein, ça, là, vraiment... Il y a une faiblesse à ce niveau-là. Mais ce qui est passionnant, c'est que, regarde, on continue. L'allée de M. de Nevers, on emprunte, bien sûr, hein, pour continuer le jardin. Et vous voyez ici, alors on a un emmarchement avec des fontaines, une statue, on ne sait pas exactement. Et le jardin continue. Il continue du côté de Sèvres, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a du côté de Sèvres ? Eh bien, il y a des habitations, il y a de l'urbanisation, donc on ne peut plus rien voir. Et tous les plans du 19e siècle nous montre l'urbanisation. Donc quand vous prenez tous les plans de Saint-Cloud au 19e siècle, eh bien, les jardins s'arrêtent là. Mais il faut prendre ce qu'on veut voir, vous vous rappelez, c'est du temps de monsieur. Bon. Et quand on prend les plans du temps de monsieur, ben, écoutez, on s'est baladé, vous vous rappelez quand même, hein, on s'est baladé dans tous les jardins bas ici. Hein, vous vous rappelez bien, on s'est baladé ici, on a vu ce point de vue, on a vu la grande cascade, le granger, les berceaux, ici. On est passé à travers... Alors, bien sûr, on avait fait la grande perspective, hein, vous vous rappelez. Et on avait ensuite, là, le Trianon. D'accord ? Alors là, c'est un état qui, ensuite, là, vous voyez, simplification, hein, avec le... simplification du parterre. Comme je vous dis, les parterres sont toujours simplifiés après. Et là, regardez, vous avez la modification dont je vous avais parlé tout à l'heure. Bon, très bien. On continue le potager. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Là, on est un peu après la mort de monsieur. Hein. On est en 1720, à peu près. Donc, il y a eu encore des modifications par rapport à ce que je vous ai montré. Bon. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? Regardez, du côté de Sèvres, les jardins continuent. Mais si les jardins continuent, c'est formidable. Ça veut dire qu'on peut trouver des choses. Ça veut dire qu'il devait y avoir d'autres petites constructions. Bon. Eh bien, on va continuer. On regarde en détail. On prend l'allée du potager. Et regardez. Qu'est-ce qu'on voit ? On arrive par ici. On voit un jet d'eau, on entend de l'eau. Et on voit un seul jet d'eau, c'est tout. Rien de spécial. Mais dès qu'on va tourner ici, on va se prendre en pleine figure une nouvelle cascade. Une grande cascade aussi, qui n'est pas petite, là, et que personne ne connaît, à ma connaissance. Donc on va avoir une nouvelle cascade à Saint-Cloud qui avait été créée du temps de monsieur, dont on ne parle pas, plus personne ne parle. Et pourtant, alors après, je passe le détail, hein, je ne vous en parle pas trop, parce que après, je ne sais pas trop, mais vous voyez que là, les jardins continuent, hein, ils sont parallèles à la route, ils sont en terrasse, et vous voyez très bien ici, il y avait tout un système de terrassement qui font penser à la grotte de Meudon, enfin, tous ces terrassements-là. Là, je n'ai pas de dessin, mais on trouvera des choses, à mon avis, ici, pour ce terrassement, hein, d'accord ? Là. Mais, alors, on va essayer de revoir sur cette cascade, regardez. On a la chance de se faire offrir le livre de Paul Missio, qui est dans la salle. Et Paul Missio, dans son livre sur la favori, regardez, il publie cette estampe formidable qui s'intitule... Alors, on peut se dire au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, c'est un projet, bon, très bien, j'ai tourné la page. » Puis, cogité, je me suis dit « Les petites cascades de Saint-Cloud du côté de Sèvres. Bon, » Sèvres, bien sûr, c'est Sèvres, pas de souci. Ça correspond avec notre petit dessin. Et surtout, ce qui est formidable dans cette estampe, c'est que, regardez, il n'y a pas de problème avec les plans, puisque la cascade, ici, elle est monumentale, mais on voit très bien en dessous, là il y avait l'allée, hein, vous voyez, dont je vous parlais, qu'on arrivait avec les grands âmes, hein, dont on arrivait, et puis, une petite rampe circulaire avec une autre petite cascade. D'accord ? Mais donc, ce point de vue, il est pris d'où ? Regardez, c'est facile. Voilà, vous l'avez trouvé. Hein ? Il est pris d'ici, en contrebas. Nous, on était dans l'allée là. Et on voit très bien l'escalier circulaire, il n'y a aucun souci. Donc cette estampe, elle est absolument fidèle. Et donc elle représente quelque chose qui a vraiment existé, qui a disparu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des maisons. Je ne sais pas si je peux prononcer le mot à Versailles, mais il y a un Lidl ou un, voilà, quelque chose comme ça. C'est un peu terrible pour ça. Mais voilà. Et donc, je voulais vous parler, pour finir, de cette deuxième cascade. Alors, je ne me suis pas arrêté là, bien sûr. J'ai dit, on va faire un essai de restitution pour quand même se rendre compte. Parce que le schéma, c'est un schéma. Alors, on reprend Et on voit que la cascade imite, bien sûr, alors elle a été certainement dessinée par Julien de Mansart, et elle prend exemple, bien sûr, sur la fameuse cascade de Ruel. Hein, voilà, vous voyez, une cascade très simple, hein, faite d'emmarchement avec l'eau qui coule comme ça, et la cascade de Ruel terminée, la grande allée. Hein, donc on a ce modèle-là en tête. Hein, et surtout, pour essayer de restituer cette cascade, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le plan du cadastre. Et au cadastre, plan très précis par excellence, qu'est-ce qu'on voit? On voit là les basses, vous voyez, et vous voyez le petit cercle ici, qui était l'ancien bassin circulaire, le premier bassin qui sert d'appât, un petit peu. Et ensuite, on a donc la taille très exacte, la mesure très exacte de la cascade haute. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est le haut de la cascade, qui donc, en 1800... voilà, 1810, quoi, est conservé. Le haut de la cascade est conservé, à 1810. On la voit. C'est un reste de la cascade. Et donc, on a la mesure, on a la topographie, bien évidemment, on a la représentation ici, et donc on peut tenter, donc j'ai tenté une essai de restitution de cette deuxième, alors pas grande cascade, mais au moins, du moins, une deuxième, presque grande cascade de 5, qui était passée à l'As. Et voilà, voilà la restitution, d'après les sources, à l'échelle de la cascade surprise de monsieur. Vous avez vu, elle est tout au bout du jardin, à la fin, on pense qu'on avait fini. Après le parterre de Vénus, le visiteur était ébloui, il se dit « mais non, il n'y aura pas de surprise encore ». Et là, monsieur fait un coup de maître, hein, jusqu'au bout, il surprend ses visiteurs, et il dit « ah, vous voyez ». Et là, je pense qu'il devait être vraiment content de son effet à la fin de chaque visite, parce que effectivement, on ne s'attend pas à voir si loin du château un ouvrage aussi beau, aussi monumental. Et on a la même chose, pensez-y, à Chantilly. À Chantilly, les grandes cascades de Chantilly, elles sont situées extrêmement loin du château, extrêmement loin, pour terminer la balade. Hein, et donc, on est ébloui encore jusqu'au bout. Et ça, vous voyez, c'est aussi une théâtralisation de la visite, qui fait que jusqu'au bout, on montre des choses exceptionnelles. Et ça, c'est passionnant pour comprendre la façon dont on doit visiter un jardin. Voilà, donc je termine sur cette grande cascade. Alors, quand on fait, ça c'est l'élévation technique du bâtiment. Donc vous vous rendez compte, techniquement, hein, si on fait un dessin technique, vous voyez, regardez sa hauteur, c'est incroyable. On a le petit duc de Bourgogne qui nous donne l'échelle, hein, qui fait à peu près presque 2 mètres, hein, 1,80 m, 70. Et donc vous voyez, en technique, la restitution de la cascade, c'est un monstre de pierre et de marbre et d'eau, hein, c'est incroyable, hein. Et puis, donc, voilà, je finis ma conférence avec, donc, je vous ai offert, hein, une deuxième cascade à Saint-Cloud, hein, donc on la voit ici, effectivement, et monsieur devait être, on comprend maintenant, quand on voit tout ça, la fierté de monsieur, hein, qui avait mis tout son amour, toute son énergie dans ces jardins de Saint-Cloud. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Merci. Donc, s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, l'île de Monsieur, elle existe aujourd'hui. Sauf que l'île n'existe plus, c'est-à-dire le petit canal est bouché. Mais vous pouvez y aller, il y a des terrains de sport, je crois. Oui ? Laquelle de partie, pardon, monsieur ?
La partie boisée, là, qui se fait jusqu'à la coquette.
Ah, ben c'est... Ah oui, mais ça, après, c'est la forêt. Donc là, c'est le parc, là. Oui, oui, on a le dessin. Mais là, je vous ai vraiment parlé des jardins stricto sensu. Hein. Donc après, il y avait bien sûr tout le parc, hein, tout le parc de Saint-Cloud. Oui ? Oui. Ah, dites-moi. Oui.
Et donc, il y avait une impression de continuité du jardin,
premier étage. Alors, voilà, au premier étage, qui est en fait le rez-de-chaussée au niveau haut, hein, du côté de la grande perspective en hauteur. En fait, vous savez, le château est encaissé, donc il y a la cour. On arrive dans la cour, on va dire. On arrive dans la cour, on rentre, on monte un escalier, on arrive au bel étage. Mais là, le bel étage, l'appartement de monsieur, il donne au rez-de-chaussée de la terrasse haute, de la perspective haute. D'accord. Donc monsieur, en fait, quand il est dans son appartement, il a la vue sur les jardins pour partie et au niveau sud, hein, mais il a, de l'autre côté, effectivement, il est en rez-de-chaussée. sur la grande perspective.
Alors, il a l'impression d'avoir une continuité avec le jardin.
Exact. Ah oui, il ne voit pas la cour, pratiquement. Enfin, non, des fenêtres, non. Ah non, des fenêtres, il voit la cour, bien sûr. De sa fenêtre. Ah non, il ne sait pas qui se pense. Il se met à sa fenêtre, là, vous voyez, il s'installe ici, il se met à sa fenêtre, il a une cour. Et il voit ensuite le parterre. D'ailleurs, cette cour, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. On aimerait bien savoir, parce que forcément, si la cour, elle est au nez de l'appartement de monsieur, c'est que forcément, cette cour, elle est aménagée et elle est luxueuse. Mais on ne sait pas trop. Alors, j'avais pensé un moment que la perspective de Bonboulogne, la fameuse perspective peinte, puisse en fait avoir été mise finalement ici, mais ça ne fonctionne pas. Et la perspective peinte de Boulogne, à ma connaissance, personne ne l'avait localisée, et je l'ai localisée. En fait, il y a dans l'estampe, vous regarderez, deux par et d'autres. Vous voyez cette perspective, pour ceux qui connaissent, peut-être, c'est un grand panneau peint. Et en fait, vous voyez dans les angles, deux par et d'autres, si vous regardez bien, des petites marches qui sont représentées. Et qui nous donne en fait l'indication pour le lieu de la perspective. D'autres questions ?
Oui ? Ah
ben ça c'est le ça ce sont les techniciens du 17e. Ben c'est, vous savez, c'est comme un Meudon là pour le coup. Alors on avait un grand réservoir qui était sur le... Attendez, je vais vous trouver le. On avait un grand réservoir haut, c'est exactement comme un Meudon. Un Meudon avait le grand réservoir de Bel Air. Et on avait la même chose à Saint-Cloud, il faut que je vous le retrouve. Donc on a en fait, pour l'eau c'est facile, on a le réservoir qui est situé en hauteur, avec tout un jeu de rigoles, etc. Et ensuite, comme ce sont des jardins en pente, forcément, on va d'un niveau à l'autre, c'est facile à exploiter, vous voyez. Voilà. Bon, enfin, le plan, il est... Voilà, en fait, le réservoir est situé un peu ici, là, vous voyez, par rapport à la vue, voilà. Voilà, en hauteur, bien sûr. Oui ? Quel bâtiment, dites-moi ? Attendez. Ah oui, il y a le musée. Ah ben ça, ce sont... Après, il y a eu des constructions au 18e et 19e. Là, il y a eu une grande caserne aussi. Donc, justement, toute cette partie-là... attendez, on le voit. Voilà, elle est ici, là, derrière. Là, ben, y avait justement tous les jardins bas que je vous ai montrés, c'est-à-dire avec le petit pavillon, le petit château, et surtout le drame, c'est l'autoroute qui vient aujourd'hui couper. Et vous avez vu qu'il y avait des jardins bas, hein, dont on avait les plans. Voilà. D'autres questions ? Oui ?
La reconstruction du château.
Ah oui, non, mais là, je vous ai déjà reconstruit beaucoup de choses ce soir, je ne vais pas encore m'étaler. Hein. Voilà. Allez, écoutez, merci beaucoup, et puis à très bientôt. Je remercie encore la société des Amis de Versailles. Merci, à bientôt. Non, mais c'est pas fou. Ah oui, bah oui, c'est bon. À bientôt, et merci beaucoup. Tenez, attendez, je vous offre. Je vous offre peut-être un homme du musée.
Est-ce qu'il y a beaucoup de sources d'archives au musée des Abîmes à Saint-Cloud ?
Alors, pas trop, non. Pas trop. Non, non.
Parce qu'il y a une très belle maquette.
Oui, oui, il y a une très belle maquette. Non, pas trop. Vous avez bien, madame, oui, on s'était vu.
Oui, on s'était vu à Meudon.
Oui, oui. Non, j'ai pas.
Voilà.
Non, pas pour l'instant.